Deuxième lettre aux Corinthiens, texte d'après la Bible de Jérusalem, enregistrement effectué par le site www.sosparanormal.com. Chapitre 1. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère, à l'Église de Dieu établie à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans l'Achaïe entière. À vous grâce et paix de par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation, qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagez aussi notre consolation. Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères. La tribulation qui nous est survenue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et nous en délivrera. En lui, nous avons cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Vous-même nous aiderez par la prière, afin que ce bienfait, qu'un grand nombre de personnes nous auront obtenu, soit pour un grand nombre un motif d'action de grâce à notre sujet. Ce qui fait notre fierté, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes comportés dans le monde, et plus particulièrement à votre égard, avec la sainteté et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais bien avec la grâce de Dieu. En effet, il n'y a rien dans nos lettres que ce que vous y lisez et comprenez. Et j'espère que vous comprendrez pleinement, ainsi que vous nous avez compris en partie, que nous sommes pour vous un titre de gloire, comme vous le serez pour nous, au jour de notre Seigneur Jésus. C'est dans cette assurance que je voulais venir chez vous tout d'abord pour vous procurer une seconde grâce, puis de chez vous passer en Macédoine et de Macédoine revenir chez vous, et vous m'auriez acheminé vers la Judée. En formant ce projet, aurais-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien mes projets s'inspirent-ils de la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui, oui, et le non, non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, notre langage avec vous n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons prêché parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Il n'y a eu que oui en lui. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons l'Amen à Dieu pour sa gloire. Et celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Pour moi, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est par ménagement pour vous que je ne suis plus venu à Corinthe. Ce n'est pas que nous entendions régenter votre foi. Non, nous contribuons à votre joie, car, pour la foi, vous tenez bon. Chapitre 2. Je décidai donc en moi-même de ne pas revenir chez vous dans la tristesse. Car si c'est moi qui vous attriste, qui peut alors me donner de la joie sinon celui que j'aurai attristé? Et si j'ai écrit ce que vous savez, c'est pour ne pas éprouver de tristesse en venant, du fait de ceux qui devraient me donner de la joie, persuadé à l'égard de vous tous que ma joie est aussi la vôtre, à vous tous. Oui, c'est dans une grande tribulation et angoisse de cœur que je vous ai écrit, parmi bien des larmes, non pour que vous soyez attristés, mais pour que vous sachiez l'extrême affection que je vous porte. Que si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas à moi qu'il en a causé, c'est, dans une certaine mesure, n'exagérons rien, à vous tous. C'est assez pour cet homme-là du châtiment infligé par la majorité, en sorte qu'il vaut mieux au contraire lui pardonner et l'encourager, de peur que cet homme-là ne vienne à sombrer dans une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à faire prévaloir envers lui la charité. Aussi bien, en écrivant, je ne me proposerai que de vous mettre à l'épreuve et de voir si vous êtes en tout point obéissant. Mais à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Car, si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu à pardonner, c'est à cause de vous, en présence du Christ. Il ne s'agit pas d'être dupe de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. J'arrivai donc à Troas pour l'évangile du Christ, et bien qu'une porte me fût ouverte dans le Seigneur, mon esprit n'eut point de repos, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Je pris donc congé d'eux et partis pour la Macédoine. Grâce soit à Dieu qui, dans le Christ, nous emmène sans cesse dans son triomphe et qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes bien, pour Dieu, la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur qui de la mort conduit à la mort, pour les autres, une odeur qui de la vie conduit à la vie. Et de cela qui est capable ? Nous ne sommes pas, en effet, comme la plupart, qui frelatent la parole de Dieu. Non, c'est en toute pureté, c'est en envoyé de Dieu que, devant Dieu, nous parlons dans le Christ. Chapitre 3. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ? Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de vous ? Notre lettre, c'est vous, une lettre écrite en nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est la conviction que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, a été entouré d'une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, pourtant passagère, comment le ministère de l'esprit n'en aurait-il pas davantage ? Si en effet le ministère de la condamnation fut glorieux, combien plus le ministère de justice l'emporte-t-il en gloire ? Non, si de ce point de vue, on la compare à cette gloire suréminente, la gloire de ce premier ministère n'en fut pas une. Car, si ce qui était passager s'est manifesté dans la gloire, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux ? En possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce qui était passager. Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est Esprit. Chapitre 4. Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Que si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement afin qu'il ne voit pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit « Que des ténèbres resplendissent la lumière » est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. Quoique vivants en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Mais, possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, se multipliant, fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas, au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare, jusqu'à l'excès, une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles en effet n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternelles. Chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme, dans les cieux. Aussi gémissons-nous dans cet état, ardemment désireux de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste, si toutefois nous devons être trouvés vêtus et non pas nus. Oui, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a fait pour cela même, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Ainsi donc, toujours plein de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Nous sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi bien que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions, avons-nous à cœur de lui plaire. Car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les hommes. Quant à Dieu, nous sommes à découvert devant lui, et j'espère que, dans vos consciences aussi, nous sommes à découvert. Nous ne recommençons pas à nous recommander nous-mêmes devant vous. Nous vous donnons seulement l'occasion de vous glorifier à notre sujet, pour que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient de ce qui se voit et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse à la pensée que, si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, désormais nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc une ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Chapitre 6. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale, pour que le ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenu pour imposteur et pourtant véridique, pour gens obscurs, nous pourtant si connus, pour gens qui vont mourir et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort, pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux, pour pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens. Notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous. C'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi. Ne formez pas d'attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Bélial? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Or, c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, « J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Sortez donc du milieu de ces gens-là, et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7. En possession de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. Faites-nous place en vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. Je suis comblé de consolation. Je surabonde de joie dans toute notre tribulation. De fait, à notre arrivée en Macédoine, notre chair ne connut pas de repos. Partout des tribulations, au dehors des luttes, au dedans des craintes. Mais celui qui console les humiliés, Dieu, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que vous-même lui aviez donnée. Il nous a fait part de votre ardent désir, de votre désolation, de votre zèle pour moi, si bien qu'en moi la joie a prévalu. Vraiment, si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, je vois bien que cette lettre vous a, ne fût-ce qu'un moment, attristé. Je m'en réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que cette tristesse vous a porté au repentir. Car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez, de notre part, subit aucun dommage. La tristesse selon Dieu produit en effet un repentir salutaire qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Voyez plutôt ce qu'elle a produit chez vous, cette tristesse selon Dieu. Quel empressement, que dis-je, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré de toute manière que vous étiez innocent en cette affaire. Aussi bien, si je vous ai écrit, ce n'est ni à cause de l'offenseur ni à cause de l'offensé. C'était pour faire éclater chez vous devant Dieu l'empressement que vous avez à notre égard. Voilà ce qui nous a consolés. À cette consolation personnelle s'est ajoutée une joie bien plus grande encore, celle de voir la joie de Tite, dont l'esprit a reçu apaisement de vous tous. Que si devant lui je me suis quelque peu glorifié à votre sujet, je n'ai pas eu à en rougir. Au contraire, de même qu'en toute chose nous vous avons dit la vérité, ainsi ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être la vérité. Et son affection pour vous redouble quand il se rappelle votre obéissance à tous, comment vous l'avez accueilli avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en tout compter sur vous. Chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été accordée aux églises de Macédoine. Parmi les nombreuses tribulations qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux en trésors de générosité. Selon leurs moyens, je l'atteste, et au-delà de leurs moyens, spontanément, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à ce service en faveur des saints. Dépassant même nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous prié Tite de mener encore à bonne fin chez vous cette libéralité, comme il avait commencé. Mais, de même que vous excellez en tout, foi, parole, science, empressement de toute nature, charité que nous vous avons communiquée, il vous faut aussi exceller en cette libéralité. Ce n'est pas un ordre que je donne. Je veux seulement, par l'empressement des autres, éprouver la sincérité de votre charité. Vous connaissez, en effet, la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. C'est un avis que je donne là-dessus, et c'est ce qui vous convient, à vous qui, dès l'an dernier, avez été les premiers non seulement à entreprendre, mais encore à vouloir. Maintenant donc achevez votre œuvre, afin que l'achèvement réponde à l'ardeur du vouloir, selon vos moyens. Lorsque l'ardeur y est, on est agréé pour ce qu'on a. Il n'est pas question de ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit point, pour soulager les autres, de vous réduire à la gêne. Ce qu'il faut, c'est l'égalité. Dans le cas présent, votre superflu pourvoit à leur dénuement, pour que leur superflu pourvoie aussi à votre dénuement. Ainsi se fera l'égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup recueilli n'en eut rien de trop, et celui qui avait peu recueilli ne manqua de rien. Grâce soit à Dieu, qui met au cœur de Tite le même empressement pour vous. Il a répondu à notre appel. Plus empressé même que jamais, c'est spontanément qu'il se rend chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge au sujet de l'Évangile. Ce n'est pas tout. Il a encore été désigné par le suffrage des églises comme notre compagnon de voyage dans cette libéralité, dont le service est assuré par nous pour la gloire du Seigneur lui-même et notre propre satisfaction. Par là, nous voulons éviter qu'on aille nous décrier pour cette forte somme dont le service est assuré par nous. Car nous avons à cœur ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais encore devant les hommes. Avec eux, nous envoyons aussi celui de nos frères dont nous avons éprouvé l'empressement de maintes manières et en maintes circonstances, et qui maintenant est beaucoup plus empressé, en raison de la grande confiance qu'il a en vous. Pour ce qui est de Tite, c'est mon associé et coopérateur auprès de vous. Quant à nos frères, ce sont les envoyés des églises, la gloire du Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité et du bien fondé de notre fierté à votre égard. Chapitre 9. Quant à ce service en faveur des saints, il est superflu pour moi de vous en écrire. Je sais en effet votre ardeur, dont je suis fier pour vous auprès des Macédoniens. L'Achaïe, leur dis-je, est prête depuis l'an passé, et votre zèle a été un stimulant pour le grand nombre. Toutefois, je vous envoie les frères, pour que la fierté que nous tirons de vous ne soit pas réduite à néant sur ce point, et que vous soyez prêts, ainsi que je l'ai dit. Autrement, si des Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, notre belle assurance tournerait à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à nous précéder chez vous et à organiser d'avance votre largesse déjà annoncée, afin qu'elle soit prête comme une largesse et non comme une lésinerie. Songez-y. Qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Qui sème largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin que, possédant toujours et en toutes choses ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit « Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. » Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichi de toute manière, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints. Il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce service leur prouvant ce que vous êtes, il glorifie Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'évangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent, en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Grâce soit à Dieu pour son ineffable don. Chapitre 10. C'est moi, Paul en personne, qui vous en prie, par la douceur et l'indulgence du Christ, moi si humble avec vous face à face, mais, absent, si hardi à votre égard. Je vous en prie, que je n'ai pas, une fois chez vous, à user hardiment de cette assurance dont j'entends avoir l'audace contre certaines gens qui pensent que notre conduite s'inspire de la chair. Nous vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à châtier toute désobéissance, dès que votre obéissance sera parfaite. Rendez-vous à l'évidence. Si quelqu'un se flatte d'être au Christ, qu'il se le dise une bonne fois. De même qu'il est au Christ, nous le sommes aussi. Et dussé-je me glorifier un peu trop de notre pouvoir, que le Seigneur nous a donné pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en rougirai pas. Car je ne veux pas paraître vouloir vous effrayer par mes lettres. Les lettres, dit-on, sont énergiques et sévères. Mais, quand il est là, c'est un corps chétif et sa parole est nulle. Qu'il se le dise bien, celui-là. Tels nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents, tels aussi, une fois présents, nous serons dans nos actes. Certes, nous n'avons pas l'audace de nous égaler ni de nous comparer à de certaines gens qui se recommandent eux-mêmes. Et se mesurant eux-mêmes à leur mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous n'irons pas nous glorifier hors de mesure. Mais nous prendrons comme mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour mesure, celle d'être arrivés jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas indûment, comme ce serait le cas si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous. Nous sommes bel et bien parvenus jusqu'à vous avec l'évangile du Christ. Nous ne nous glorifions pas hors de mesure au moyen des labeurs d'autrui, et nous avons l'espoir, avec les progrès en vous de votre foi, de nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous, en portant l'évangile au-delà de chez vous, au lieu d'empiéter sur le domaine d'autrui et de nous glorifier de travaux tout préparés. Celui donc qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu l'insensé. Mais, bien sûr, vous me supportez. J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si le premier venu en effet prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime pourtant ne le céder en rien à ces archi-apôtres. Si je ne suis qu'un profane pour la parole, pour la science, c'est autre chose. En tout et devant tous, nous vous l'avons montré. Ou bien, aurais-je commis une faute en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu, m'abaissant moi-même pour vous élever, vous? J'ai dépouillé d'autres églises, recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et quand, une fois chez vous, je me suis vu dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Ce sont les frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. De toute manière, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce titre de gloire ne me sera pas enlevé dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Et ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient un, pour être trouvés nos pareils sur le point où ils se glorifient. Car ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres du Christ. Et rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Rien donc de surprenant si ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé. Ou bien alors, acceptez-moi au moins comme tel, que je puisse à mon tour me glorifier un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme un insensé, dans l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque tant d'autres se glorifient selon la chair, je vais, moi aussi, me glorifier. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Oui, vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à votre honte, c'est à croire que nous nous sommes montrés faibles. Mais ce dont on se prévaut, c'est en insensé que je parle, je puis m'en prévaloir moi aussi. Ils sont hébreux? Moi aussi. Ils sont israélites? Moi aussi. Ils ont postérité d'Abraham? Moi aussi. Ils sont ministres du Christ? Je vais dire une folie. Moi plus qu'eux. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent j'ai été à la mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Voyages sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères, labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité. Et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle. S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'ethnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour m'appréhender. Et c'est par une fenêtre, dans un panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappai à ses mains. Chapitre 12. Il faut se glorifier? Cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffléter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu insensé. C'est vous qui m'y avez contraint. C'était à vous de me recommander. Car je n'ai été en rien inférieur à ces archi-apôtres, bien que je ne sois rien. Les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signes, prodiges et miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que personnellement je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que, pour la 3e fois, je suis prêt à me rendre chez vous, et je ne vous serai pas à charge, car ce que je recherche, ce ne sont pas vos biens, mais vous. Ce ne sont pas en effet les enfants qui doivent thésauriser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes. Faut-il que, vous aimant davantage, je sois moins aimé? Soit, dira-t-on, personnellement je ne vous ai point grevé, mais, en fourbe que je suis, je vous ai pris par la ruse. Vous aurais-je donc exploité par l'un quelconque de ceux que je vous ai envoyés? J'ai insisté auprès de Tite et j'ai envoyé avec lui le frère. Tite vous aurait-il exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, suivi les mêmes traces? Depuis longtemps, vous vous imaginez que nous nous défendons devant vous. C'est devant Dieu, dans le Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien aimé, pour votre édification. Je crains, en effet, qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas. Qu'il n'y ait discorde, jalousie, animosité, dispute, calomnie, commérage, insolence, désordre. Je crains qu'à ma prochaine visite mon Dieu ne m'humilie à votre sujet et que je n'aie à mener le deuil sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis pour leurs actes d'impureté, de fornication et de débauche. Chapitre 13. C'est la 3e fois que je vais me rendre chez vous. Toute affaire se décidera sur la parole de 2 témoins ou de 3. Je l'ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, et je le redis d'avance aujourd'hui que je suis absent, comme lors de mon 2nd séjour. Si je reviens, je serai sans ménagement, puisque vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Certes, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles en lui, bien sûr, mais nous vivrons avec lui, par la puissance de Dieu à votre égard. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne tourne contre vous. Vous reconnaîtrez, je l'espère, qu'elle ne tourne pas contre nous. Nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal. Notre désir n'est pas de paraître l'emporter dans l'épreuve, mais de vous voir faire le bien et de succomber ainsi dans l'épreuve. Car nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Oui, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre affermissement. Voilà pourquoi je vous écris cela, étant absent, afin de n'avoir pas, une fois présent, à user de sévérité selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour édifier et non pour détruire. Au demeurant, frères, soyez joyeux, affermissez-vous, exhortez-vous, ayez même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de la charité et de la paix sera avec vous. Saluez-vous mutuellement d'un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.